Yep, already.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Marguerite Duras, de son vrai nom Marguerite Donadieu, est née le 4 avril 1914 à Djiadine, une ville de la banlieue nord de Saïgon. Elle a deux frères. Le père de Marguerite, Émile Donadieu, était professeur de mathématiques et directeur de l'enseignement aux colonies. Il rentre en France, à Duras, en Dordogne, pour soigner une dysenterie. Il va y mourir, mais rien ne sera dit aux enfants. Marguerite a 4 ans, elle n'apprendra la mort de son père que 3 ans plus tard et réalisera des années après qu'il est mort le 4 avril, le jour de sa propre naissance. En 1923, sa mère s'installe avec ses 3 enfants à Vinh Long, une ville située dans le delta du Mekong. Elle met toutes ses économies dans l'achat d'une concession qui va se révéler incultivable. La famille est ruinée et vivra désormais dans une extrême pauvreté. La mère de Marguerite, chaque jour, se bat contre l'impossible, empêcher l'inondation de ses terres par le Mekong. Marguerite héritera de cette ténacité. Réfugiée dans l'écriture, elle multipliera les œuvres de fiction avec obstination. 47 livres. L'écriture comme issue de secours contre l'absurdité du monde et le manque d'amour. Rien d'étonnant dès lors à ce que l'un de ses premiers romans soit autobiographique et tout entier consacré à cette mer inaccessible. Ce sera Un barrage contre le Pacifique en 1950, son premier succès littéraire. On y perçoit la relation ambivalente qu'elle entretient avec cette mer, aimée et détestée à la fois. Cette mère qui a peu de temps à consacrer à ses enfants. Toute son attention étant reportée sur les tâches matérielles et sur cette rizière dans laquelle elle a mis toutes ses économies. Délaissée, Marguerite joue avec les indigènes. Elle se sent, et elle est vietnamienne, bien plus que française. L'Asie marquera profondément sa vie et son écriture. Le spectacle quotidien de la misère, l'océan qui déferle sur les rizières, les paysages, écrasés par la chaleur, constitueront des thèmes récurrents de son œuvre.
J'avais 2 frères. Le premier, on a été peu ensemble, étant enfant. Comme ma mère ne pouvait pas nous élever tous les 3, après la mort de mon père, l'aîné était resté en France pour faire une école d'électricité, je crois. Elle avait gardé les 2 petits avec elle. Vous comprenez, elle était tellement en proie au désespoir qu'elle était occupée par ce désespoir et que nous étions d'une liberté total, je n'ai jamais vu des enfants aussi libres que nous. Que nous sur les terres du barrage, que mon frère et moi. Celui qui s'appelle Joseph dans le livre. Elle ne pensait plus à ses enfants, je crois. Alors on se sauvait, on s'est parti des journées entières. Pas dans les arbres, mais dans la forêt. Sur les rivières. Sur les racks, ce qu'on appelle les racks, ces petits torrents qui descendent vers la mer. On chassait. Ça fait des enfances très différentes de celles d'ici. Mais on était plus des Vietnamiens, vous voyez, que des Français. C'est ça que je découvre maintenant, c'est que c'était faux, cette appartenance à la nationalité française. On parlait, nous, les Vietnamiens, comme des petits Vietnamiens. On ne mettait jamais de souliers, on vivait à moitié nu, on se baignait dans la rivière. Ma mère, elle, bien sûr, non. Elle n'a jamais parlé de vietnamien, elle n'a jamais pu l'apprendre, c'est très difficile. J'ai passé mon bac avec le vietnamien. En somme, j'ai appris que j'étais française, voyez. Ma mère me le répétait souvent, vous qui êtes française. Un jour, elle est allée à Saïgon, elle a ramené des pommes rainettes. Je ne sais pas comment ils appellent ces pommes rouges. Et elle nous a forcés à en manger, on ne pouvait pas les avaler. Quoi. C'est que c'était du coton, que ça ne se mangeait pas. On ne pouvait pas manger de la nourriture française. J'ai fait une sorte d'anorexie, moi j'avais 10 ans. à Phnom Penh. On me forçait à manger des beefsteaks, je vomissais les beefsteaks. On était de là-bas, de la brousse, vraiment.
En 1932, alors qu'elle vient d'obtenir son baccalauréat, Marguerite Duras quitte Saïgon. Elle s'installe en France pour suivre des études. En 1936, elle obtient une licence en droit. Cette même année, elle rencontre Robert Anthelme, qu'elle épouse 3 ans plus tard. En 1943, tous deux entrent dans la résistance. En parallèle, Marguerite publie chez Plon un premier livre sous le pseudonyme de Marguerite Duras, « Les impudents ». L'année suivante, elle publie « La vie tranquille » chez Gallimard. Il s'installe au 5 rue Saint-Benoît, à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Là, voyez au plafond, des traces de champagne sans doute. Marguerite donnait des fêtes formidables. Boris Vian venait ici, Jacques Tati, qui les faisait beaucoup rire, mais aussi Queneau, Bataille, Blanchot, Edgar Morin. En 44, le mari de Marguerite Duras, Robert, est déporté à Dachau. Marguerite s'inscrit au PCF. Elle en sera exclue quelques années plus tard, mais continuera de militer pour différentes causes, comme la guerre en Algérie ou le droit à l'avortement. À la fin de la guerre, Robert est libéré. Malade du typhus, il rejoint Marguerite à Paris dans un état critique. Il est mourant. Il a perdu 50 kilos. N'en pèse plus que 35. L'écrivaine fera le récit de cette période dans « La douleur », paru en 1985. En 47, Marguerite divorce. Elle se remarie avec Dionis Mascolo, dont elle aura un fils, Jean. Elle publie Un barrage contre le Pacifique, roman qui sera adapté au cinéma. Elle-même écrira plus tard des scénarios. Hiroshima, mon amour, en 59, est le plus célèbre. Elle passera à la réalisation, adaptant ses propres livres, comme India Song en 1975. Elle écrit également des pièces de théâtre. Parmi les livres majeurs de cette époque, on peut citer Moderato Cantabile, Le ravissement de l'Olvestein, ou encore Le Vice-Consul. En 84, L'Amant, un roman largement autobiographique, reprend la trame de son enfance. Il reçoit le prix Goncourt. En voici un extrait. La beauté, selon Marguerite Duras.
Je pourrais me tromper, croire que je suis belle comme les femmes belles, les femmes regardées, parce qu'on me regarde vraiment beaucoup. Mais moi, je sais que ce n'est pas une question de beauté. Mais d'autres choses, oui, d'autres choses. Par exemple, d'esprit. Ce que je peux paraître, je le parais. Belle aussi, si c'est ce que l'on veut que je sois. Belle ou jolie, jolie par exemple, pour la famille. Pour la famille, pas plus. Tout ce que l'on veut de moi, je peux le devenir, le croire. Croire que je suis charmante aussi bien. Dès que je le crois, que cela devienne vrai pour celui qui me voit et qui désire que je sois, selon son goût. Je le sais aussi. Je suis averti déjà. Je sais quelque chose. Je sais que ce n'est pas les vêtements qui font les femmes plus ou moins belles, ni les soins de beauté, ni les prix des onguents, ni la rareté, le prix des atours. Je sais que le problème est ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je sais seulement qu'il n'est pas là où les femmes croient.
L'amant de Marguerite Duras.
Je lui dis de venir, qu'il doit recommencer à me prendre. Il vient. Il sent bon la cigarette anglaise, le parfum cher. Il sent le miel. À force, sa peau a pris l'odeur de la soie, celle fruitée du tussor de soie, celle de l'or. Il est désirable. Je lui dis ce désir de lui. Il me dit d'attendre encore. Il me parle. Il dit qu'il a su tout de suite, dès la première traversée du fleuve, que je serai ainsi, après mon premier amant, que j'aimerais l'amour. Il dit qu'il sait déjà que lui, je le tromperai, et aussi que je tromperai tous les hommes avec qui je serai. Il dit que quant à lui, il a été l'instrument de son propre malheur. Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce et je lui dis. Il devient brutal, son sentiment est désespéré, il se jette sur moi, il mange les seins d'enfants, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le plaisir très fort. Je pense, il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie, L'amour, seulement ça. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait sans le savoir. Il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour. Et c'est ça qu'il doit dire. Et c'est ça qu'on dit quand on laisse le dire se faire. Quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut. Et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. Les déchets sont recouverts. Tout va dans le torrent, dans la force du désir.
Encore heureux. Portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. En 92, Marguerite Duras publie Jan Andrea Stenner chez Paul. Jan Andrea, c'est son dernier compagnon. Leur relation a duré 16 ans. Jan la rencontre au cours d'une projection alors qu'il est étudiant à Caen. Elle lui donne son adresse. Il lui écrit, quotidiennement. Il lui dit qu'il a lu Les Petits Chevaux de Tarquinia et qu'il n'a ensuite plus rien lu d'autre. Qu'il s'est mis à boire du Campari, comme ses héros, à danser sur la musique d'India Song. Pendant près de 5 ans, Duras ne lui répond pas. Puis elle lui envoie un livre, L'homme assis dans le couloir. Il n'aime pas. C'est alors lui qui se tait. Un jour, en septembre 1980, il l'appelle à Trouville, où elle écrit des chroniques pour Libération. Il la rejoint. Ils boivent ensemble. Il ne la quitte plus. Elle a 66 ans, il en a 28, et s'appelle encore Jan Lemay. Bientôt, Marguerite remplacera son patronyme par le prénom de sa mère, Andrea. C'est le début d'une histoire d'amour entre une femme et un homosexuel. Car Jan Andrea n'est pas seulement de 38 ans plus jeune que Duras, il désire les hommes. Dans sa biographie de Marguerite Duras, Laure Adler décrit Jan comme discret, patient. Il est maigre, un corps de jeune homme trop vite grandi, l'air dégingandé, le regard étonné. Tout de suite, il devient le compagnon, l'ami, le secrétaire, le chauffeur, l'infirmier. Il est arrivé dans la vie de Marguerite au moment où elle se sentait à bout de souffle. Il va lui donner envie d'écrire et de filmer leur amour, leur impossibilité de s'aimer. Jan la protégera, la supportera. Jan se taira, encaissant les coups, les insultes. Les derniers mois, il la protège. Il ferme les portes. C'était de plus en plus difficile de parler avec elle au téléphone. Jan, adorable, charmant, vous entretenait de la pluie et du beau temps, de la couleur du ciel, d'une promenade à pied la veille. Il riait, il parlait, mais il ne vous la passait pas. Après la mort de Marguerite, il reste enfermé pendant 2 ans dans la chambre qu'elle lui a léguée en face de son appartement de la rue Saint-Benoît à Paris. Puis il se met à écrire. Après la publication de son premier livre intitulé « Cet amour-là », il se dit un peu défait. Les gens m'ennuient. Elle avait une telle fantaisie quotidienne, dit-il, même dans la mauvaise foi et la méchanceté. Marguerite, en effet, ne fait pas de cadeaux à personne. Elle a des mots très durs. Ses propos sur ses confrères sont souvent radicaux. À Bernard Pivot, qui l'interroge, elle déclare
« Des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit. Sartre, il n'a pas écrit. Pour moi, il n'a pas su ce que c'était écrire. Il a toujours eu des soucis annexes, des soucis en second, des secondes mains. Il n'a jamais affronté l'écriture pure. C'est un moraliste, Sartre. Il a toujours puisé dans la société, dans une espèce d'environnement de lui, un environnement politique, littéraire. Ce n'est pas quelqu'un de qui je dirais « il a écrit ». Je n'y penserai même pas. J'ai lu une chose de lui qui m'intéressait, dans Situation. Il parlait de la littérature américaine, oui. Sans ça, rien. Je dirais que Maurice Blanchot écrit, Georges Bataille a écrit. Mais vous savez, ce n'est pas un jugement de valeur que je porte là. Il y a des gens qui croient écrire, et puis des gens qui écrivent. C'est rare, c'est très rare.
Le style de Duras est très particulier lui aussi. Haché, morcelé. Il y a souvent un personnage qui parle dans l'absolu, qui dit quelque chose qui doit être dit, mais sans pour cela qu'il s'adresse à un autre personnage du récit, ni même au lecteur. Cette vérité s'apparente à un cri. La phrase durassienne est courte. Elle n'est pas réécrite, retravaillée à l'infini comme elle pouvait l'être chez Flaubert, cet éternel insatisfait. Marguerite Duras écrit certains de ses romans en quelques jours, dans une espèce de transe. Pourtant, le message passe. Le lecteur est séduit par ce style si primitif. L'émotion circule. Les voix sont solitaires. Leur but n'est pas de faire progresser l'histoire, ni même de la raconter, mais plutôt de traduire la tristesse de quelques individus face à cette histoire. Duras ne fait pas de longues phrases. Elle ne fait pas du beau pour faire du beau. Elle tente de traduire l'indicible, l'errance et la folie.
J'ai lu, mais je ne lis plus. Il y a quand même... Je pense que c'est pas les auteurs. Mais peut-être que ça t'intéresse pas, ce que tu dis là. Je pense pas que ce soit les auteurs. C'est les éditeurs. Qui n'obligent pas les... Qui ne mettent pas leurs auteurs en... sur la voie de la... du calme, quoi, de sortir de l'épouvante. Tous les écrivains sont épouvantés. Ils ont peur d'écrire. Ils comptent les éditions, les tirages et tout ça. C'est très pénible, ça. Ce qui a joué dans mon cas, je sais pas. Je sais pas. J'ai jamais eu peur. J'ai fait des livres incompréhensibles. Il y en a un que j'ai lu récemment. Que j'avais pas lu depuis 40 ans. Et qui est magnifique. Qui s'appelle... Yann ne va se souvenir du titre.
La vie tranquille.
La vie tranquille, oui. La vie de Marguerite Duras n'eut pourtant rien de tranquille, rien de paisible. Elle l'a passée à aimer les hommes, avec passion, à écrire dans une sorte de fièvre, et aussi à boire, avec des mesures, jusqu'à 6 litres de vin par jour.
J'ai commencé à boire dans les fêtes, et dès le début je suis devenue alcoolique. J'ai commencé à boire le soir, puis à midi, puis le matin, puis j'ai commencé à boire la nuit. Une fois par nuit, puis toutes les deux heures.
Dans La vie matérielle, en 1987, l'écrivaine signe l'échec de la solution alcoolique.
L'alcool a été fait pour supporter le vide de l'univers, le balancement des planètes, leur rotation imperturbable dans l'espace, leur silencieuse indifférence à l'endroit de votre douleur. L'alcool ne console en rien, il ne meuble pas les espaces psychologiques de l'individu, il ne remplace pas le manque de Dieu. Il ne console pas l'homme. C'est le contraire. L'alcool conforte l'homme dans sa folie. Aucun être humain, aucune femme, aucun poème, aucune musique, aucune littérature ne peut remplacer l'alcool dans cette fonction qu'il a auprès de l'homme. L'illusion de la création capitale. Il est là pour la remplacer. Et il le fait auprès de toute une partie du monde qui aurait pu croire en Dieu et qui n'y croit plus.
Marguerite Duras meurt à son domicile à Paris le 3 mars 1996. Elle a 81 ans.
Pourtant. La solitude. Désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. mais la solitude. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude. La solitude. Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Vivre comme ça. Donc, je vous ai dit que je vivais dans cette solitude. À la longue, il y a des risques. Des risques graves qu'on encourt. Enfin, je pense que c'est inévitable. Dès que l'être humain est seul, il bascule dans une sorte de folie. Je crois que la personne seule est folle. Parce que rien ne l'arrête. Dans un délire, dans une morbidité, dans la mort.
C'est une partie prenante de l'écriture, du geste d'écrire.
D'écrire au milieu de la solitude. D'écrire, vous me direz, c'est tout, on est toujours seul quand on écrit. Mais on n'est pas jamais seul physiquement. On entend les bruits dans la cuisine, on entend les bruits de télé, de radio. Dans l'appartement, quoi. Surtout quand on n'a jamais demandé le silence, comme je ne l'ai jamais fait.
Le mois prochain, nous serons en compagnie, encore une fois, d'un grand solitaire et d'un grand écrivain, peut-être le plus grand de la littérature française du XXe siècle, en tout cas certainement le plus controversé, Louis-Ferdinand Céline. Bonne semaine à tous. Pensez au podcast toujours disponible sur notre site. Un grand merci à Annie et à Pauline. À très bientôt sur Radio B.